Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bienvenue à bord de Mondial Sport, une émission réalisée par Valentin Vaner avec le concours de Laurent Philippot. Le filet bien garni avec du foot, du cyclisme, de la boxe. Mais pour commencer, Cédric de Oliveira est à mes côtés. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Eric.
Vous nous emmenez tout de suite en Égypte.
Tout de suite.
Ouais. Pas pour une croisière sur le Nil, mais en musique.
Mondial Sport sur RFI.
Voilà l'hymne égyptien qui a ouvert la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique. C'était hier. Une musique qu'on va beaucoup entendre dans deux mois à partir du 21 juin au lancement de cette CAN 2019. Une cérémonie impressionnante au pied des pyramides de Gizeh sous l'œil du Sphinx et de notre envoyé spécial Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde.
Et une cérémonie qui a eu aussi quelques petits ratés.
Oui, ce sont des détails qui ont un peu montré l'ambition immense de l'Égypte et la précipitation dans laquelle le pays travaille depuis janvier. Après le feuilleton du décalage de la CAN au Cameroun à 2021, l'Égypte voulait une cérémonie pharaonique, mais elle avait peu de temps pour l'organiser. Ça débouche sur des petits riens, comme un feu d'artifice qui part pendant le discours de la maîtresse de cérémonie, la présentatrice vedette Mariam Amin, le vent qui s'infiltre entre les deux écrans géants et va souffler dans les micros d'Anthony Bafo pendant que le Ghanéen dirige le tirage au sort, ou la musique qui se fait attendre au moment du numéro de la troupe acrobatique autrichienne. Enfin, des bruits de perceuse pendant la cérémonie. La zone d'interview où les entraîneurs sont venus donner leurs impressions après le tirage a en effet dû être vissée et revissée parce qu'elle n'était pas aux bonnes dimensions. C'est des petits couacs devant lesquels Hamad, le président de la CAF, ne s'est pas défilé. Il a même assumé courageusement.
Au nom de la Confédération africaine de football, je vous remercie d'être tous là. Peut-être que les conditions ne sont pas bien réunies, mais c'est ce que la Confédération, avec le comité d'organisation locale, a pu vous offrir. On est dans une amélioration, dans une phase de réforme. Donc, soyez tolérants. Voilà peut-être ce que je peux vous dire.
Voilà les excuses d'Hamad. Alors, on l'a compris, il y a eu pas mal de petits impairs dans cette cérémonie, mais l'essentiel était ailleurs.
Oui, évidemment, les pyramides, le sphinx, les perceuses, tout ça a rapidement été relégué au second plan par les fameuses boules du tirage au sort. Moustapha Hadji, le Marocain, El Hadj Diouf, le Sénégalais, Ahmed Hassan, l'Égyptien, et Yaya Touré, l'Ivoirien, des légendes du football africain, ont scellé le sort des 24 pays engagés en étant plutôt clément avec l'Égypte, le pays organisateur qui hérite de la RDC, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Globalement, d'ailleurs, et sans doute à cause de la prise en compte du classement FIFA pour établir les chapeaux, la plupart des groupes comptent deux favoris clairs et deux équipes outsiders, comme on dit en bon français. C'est le cas également du groupe B, où le Nigeria et la Guinée paraissent avoir une longueur d'avance sur les novices que seront Madagascar et le Burundi, ou encore la poule C, où le Sénégal et l'Algérie n'ont que peu de raisons, a priori, de se méfier du Kenya et de la Tanzanie. Djabel Belmadi, le sélectionneur algérien, plaide, lui, pour le Sénégal, le favori du groupe à ses yeux.
C'est un tirage au sort, je pense, pour moi, assez équilibré. On va dire avec un Sénégal, bon, tout le monde connaît, des derniers mondialistes. Ils sont sur une vraie bonne période, sur ces deux dernières années au moins. Ils ont trouvé une certaine stabilité dans cette équipe et c'est une équipe qui est favorite dans cette compétition, pas seulement dans le groupe. Et après, il y a le Kenya et le Tanzanie. C'est des équipes qu'il va falloir bien étudier. Je vous mentirai de dire que je les connais exactement, mais bon, c'est des équipes qu'il va falloir prendre au sérieux, bien préparer les matchs. On joue dès le premier match contre le Kenya, donc il va falloir être prêt pour ce match-là.
Pas facile pour l'Algérie, ça sera un peu plus équilibré dans les trois autres groupes, Antoine, à commencer par le groupe D, celui du Maroc, d'Hervé Renard.
Oui, vous faites bien de parler de lui, Cédric, parce que le double champion d'Afrique retrouve sa Côte d'Ivoire, celle qu'il avait couronnée en 2015. Les Marocains entameront leur CAN face à la Namibie, tandis que les Ivoiriens joueront l'Afrique du Sud pour la première journée. Les retrouvailles, c'est aussi au programme d'Alain Giresse avec la Tunisie. Arrivé il y a pile 5 mois chez les Aigles de Carthage, le Français aura l'occasion de croiser le Mali dans la poule E. Lors de la CAN 2017, Giresse dirigeait les Aigles maliens. Du coup, il les connaît bien.
On peut toujours dire qu'on est satisfait d'un tirage au sort. Un tirage au sort, ça nous donne quoi? De dire qu'on est satisfait, c'est pas ça qui nous fait nous qualifier. Donc, si on avait pu se mettre dans le groupe V, ça aurait été une bonne chose. Maintenant, on va décortiquer nos adversaires, on va les observer, les analyser. Et puis surtout, nous, on va tout faire pour être, comme je l'ai dit, dans les meilleures conditions, avec bien sûr toujours l'ambition de réussir une belle et grande Coupe d'Afrique, ayant l'ambition de faire une grande Coupe d'Afrique.
Donc, vous allez vraiment avoir besoin d'étudier le Mali, que vous connaissez bien ?
On va les observer, mais si vous me demandez si j'ai besoin d'analyser individuellement les joueurs, je crois que je vais vous dire non. Parce que si je vous dis l'inverse, vous n'allez pas me croire. Effectivement, parler d'un joueur malien ne me posera aucun problème. C'est la connaissance que j'ai fatalement de cette équipe et de ses joueurs.
Alain Giresse au micro de David Kalfa. La Tunisie qui aura fort à faire face à une Mauritanie qui a les armes pour défendre ses chances dans cette CAN. Et puis un Angola qui en a impressionné plus d'un lors de la phase des éliminatoires.
Et puis on va terminer par évoquer le Cameroun, le tenant du titre a hérité du groupe F en compagnie du Bénin, de la Guinée-Bissau et du Ghana.
Un groupe qui jouera à Ismaïlia et où le Ghana et le Cameroun feront figure évidemment de favoris. Mais côté béninois, on était loin de faire la grimace à l'idée d'affronter les Lions indomptables. Loin de là, les Camerounais apparaissaient même aux yeux de beaucoup comme la tête de série la plus abordable. Le seul à voir le verre un peu à moitié vide, c'était Michel Dussuyer, l'ancien sélectionneur de la Guinée, désormais béninois, restait bien évidemment sur ses gardes.
Non, on s'attendait de toute façon à des groupes relevés dans l'ensemble. Hein. Avec le système des chapeaux, on sait qu'il y a des grandes équipes. Et puis voilà, bon, avec le Cameroun, on est servi. Avec la Guinée et le Ghana, on est servi. Maintenant, bon, la Guinée-Bissau, c'est aussi une équipe qui est en pleine progression depuis des années, qui s'est qualifiée à la dernière édition. Là, une équipe qui a beaucoup de qualité, qui vient composer un groupe qui forcément sera difficile.
Vous redoutez particulièrement le tenant du titre ?
Non, je pense que c'est. On respecte tout le monde, on sait que c'est un grand Afrique. Voilà, maintenant on essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes quand on l'affrontera.
Voilà, Michel Dussuyer au micro de David Kalfa. En tout cas, Antoine, cette cérémonie du tirage au sort et ce premier séjour en Égypte pour les sélectionneurs aura mis tout le monde d'accord. L'organisation devrait a priori être au niveau des attentes.
Oui, les moyens mis en œuvre par l'Égypte cette semaine ont rassuré un peu tout le monde sur la situation sécuritaire, évidemment. Comme sur la volonté de réussir. Et là, je cite le président de la fédération égyptienne, la meilleure CAN de tous les temps, rien que ça. Même si le défi à relever en 6 mois et maintenant 2 mois est immense, Sébastien Minier, le sélectionneur du Kenya, n'a pas trop de doutes. Les installations seront bonnes, selon lui. Et même si les stades égyptiens sonnent creux depuis 2012 et le drame de Port Saïd, le français est sûr que l'Égypte aura des supporters motivés. Il l'a vécu même en éliminatoire de la Coupe du Monde. C'était lorsqu'il était adjoint au Congo-Brazzaville.
Je pense savoir ce que c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs en termes d'ambiance. Donc oui, je pense que ça sera une belle fête. Les installations tiendront la route. On aura, je pense, des belles pelouses qui changeront des dernières compétitions. Puisque au Gabon, ce n'était pas l'idéal à ce niveau-là. Tous les outils me semblent réunis pour qu'il y ait une belle fête et une belle compétition. Forcément heureux de faire partie des équipes qualifiées et des sélectionneurs en place. J'ai eu l'occasion d'en effectuer 3 comme adjoint de Claude Leroy. Et là, d'y être en tant que numéro 1, ben c'est un plaisir aussi, une certaine fierté. Maintenant, après 15 ans d'absence, il va falloir faire bonne figure, être à la hauteur de l'événement. Donc voilà, on aura les réponses dans 2 mois.
Rassurer Sébastien Minier et les sélectionneurs sur ses installations en Égypte. Et puis pour terminer, Antoine, en marge de ce tirage au sort, il y a eu d'autres décisions importantes qui ont été prises par la CAF.
Oui, avec la nomination d'un nouveau secrétaire général. L'Égyptien Amer Fahmy, en poste depuis novembre 2017, a été remplacé par le Marocain Mouad Hadj. Ce dernier était jusque-là coordinateur général au sein de la CAF. Et puis surtout, une nouvelle compétition de la Confédération africaine va changer de pays hôte. Le CHAN 2020, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, elle était prévue en Éthiopie. Elle aura finalement lieu au Cameroun, à la grande joie de Sédou Mbombojoya. Le président de la FECAFOOT y voit une occasion de préparer au mieux la CAN 2021 qui, elle, est prévue dans son pays.
Pour nous, ça va nous permettre de nous mettre une pression supplémentaire qui sera la bienvenue, d'avoir un tour de chauffe et de préparer 2021 dans les meilleures conditions. Ça voudrait dire qu'il va falloir se mettre au travail très rapidement. Mais cela dit, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nos installations sportives nous permettent d'organiser cette compétition sans embâche. C'est une compétition à 16 équipes, qui peut se jouer sur 2 villes, 2 sites. Déjà, les infrastructures sont prêtes. Vous savez que le stade de Douala, le stade de Japoma, est quasiment terminé. Nous envisageons même probablement organiser un match amical dans les prochaines semaines, dans ce stade. Les terrains d'entraînement sont aussi quasiment prêts. En tout cas, pour le CHAN, il n'y a pas de problème. Le CHAN, c'est une compétition qui va nous permettre vraiment d'être à 100% prêts pour 2021.
Voilà Cédric, plus que jamais le foot africain et la CAF sont un work in progress, en chantier en bon français. Rendez-vous le 21 juin pour le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, la toute première à 24 équipes.
Et on a hâte d'y être, bien entendu, hein, ce sera à vivre sur RFI, avec vous notamment Antoine Grenier. Alors vous n'allez pas rester en Égypte jusqu'au 21 juin j'imagine quand même.
Non, on rentre demain avec toute l'équipe de Radio Foot et on sera là lundi.
Eh bien, on vous souhaite un bon retour en France. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt sur les antennes de RFI et de Mondial Sport.
Ça va, c'était bien avec Antoine, Cédric ?
Oui, on se s'est bien passé.
Oui, je vois ça. Je vous ai laissé le studio, vous l'avez pris tout entier. Ça va continuer parce que c'est décidément très chargé en Afrique en matière de football ce week-end. L'attente est terminée hein, pour le tout-puissant Mazembe. 4 ans après avoir remporté sa dernière Ligue des Champions, le club congolais retrouve hein, pour la première fois les demi-finales de la compète.
Oui, soulagement pour le TP qui a donc dominé Simba 4-1, mais ça a été très compliqué, notamment à cause de l'ouverture du score très rapide des Tanzaniens dès la deuxième minute. Les Congolais qui ont donc douté 20 minutes avant que Kalaba et Elia Meshak ne leur donnent l'avantage. Il y avait donc 2-1 à la pause. Avec cet avantage, les Corbeaux ont ensuite pu gérer et inscrire de nouveaux buts par Mputu et Muleka. 4-1 score final, score sans appel pour Samba et son entraîneur Patrick Ossem. Ces joueurs ont manqué d'expérience.
On a réussi à marquer rapidement. On n'a pas été capable après de garder le ballon. On a trop subi leurs assaut et à force de subir, on a craqué. Après, en deuxième mi-temps, vous savez, c'est 2-1. Moi, je fais rentrer mes gars offensifs pour essayer de marquer un deuxième et je sais très bien que je m'expose à des contres. Donc, 3, 4, ça aurait pu être 5 ou 6. Mais bon, si on a des joueurs avec un petit peu plus d'expérience, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour le TP Mazembe. Bon, maintenant, ils méritent leur victoire hein, parce que bon, ils ont poussé. Mon seul regret, et il est assez énorme, c'est que je prends ce but sur corner, le premier but, alors qu'on est à 10 contre 11, que j'ai un de mes joueurs qui est sorti et qui se fait soigner et il nous manque quelqu'un dans la boîte. Après, il y a des erreurs individuelles qui nous coûte ses buts, mais pour être honnête avec vous, je pense que ce match aura permis aux joueurs de gagner 2 ans d'expérience.
Ah, Patrick Ossem au micro de Pascal Mwangala, vous l'avez dit Eric, le TP retrouve donc ses demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2015.
Et ces demi, ce sera pour les Congolais face à l'Espérance de Tunis, un autre gros morceau.
Hein. Et le tenant du titre de cette Ligue des Champions n'a eu aucun mal à prendre de nouveau la mesure du CS Constantine, 3-1, notamment grâce à un doublé de Saad Begir, auteur de 2 coups de canon, lui qui, on le rappelle, avait déjà été déterminant en finale l'an dernier. Les sang et or s'étaient déjà imposés 3-2 chez les Algériens, pour qui c'est donc un nouveau coup de massue. Cette demi-finale promet donc d'être belle entre les Tunisiens et le TP Mazembe.
Un autre récent vainqueur de la compétition sera lui aussi au rendez-vous des demi-finales, il s'agit de Mamelodi Sundowns.
Le champion d'Afrique 2016 qui a su résister au Kerot d'Al Ahly, notamment grâce au gardien ougandais Denis Onyango, particulièrement impressionnant lors de cette rencontre. Les Égyptiens ont tout de même réussi à marquer une seule fois grâce à Walid Azarou. Ils s'imposent donc 1-0, insuffisant après leur débâcle 5-0 la semaine dernière en Afrique du Sud.
Et les Sud-Africains affronteront le Wydad Casablanca en demi, lui aussi titré un Wydad il n'y a pas si longtemps.
C'était en 2017, les Marocains qui avaient été tenus en échec la semaine dernière 0-0 par le Oroya. Cette fois sur leur pelouse, ils n'ont laissé aucune chance aux Guinéens, 5-0, c'est donc la fin du rêve pour Oroya. Et si vous avez été attentif, Eric, et je sais que vous l'êtes, eh bien le TP Mazembe, le Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis sont tout bonnement les 4 derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions. Voilà, tout sauf un hasard hein, de les retrouver à ce stade de la compétition. Les demi-finales allées auront lieu dans 2 semaines, le retour est prévu au début du mois de mai.
Un sacré plateau en effet, place demain au quart de finale de la Ligue Europa, l'autre Coupe d'Afrique.
Hein. Bah, la Coupe de la Confédération, du coup, effectivement, j'ai dit Ligue Europa, Coupe de la Confédération,
si j'aime bien.
Effectivement. Le CS Sfaxien affrontera les Zambiens de Nkana, les Marocains de la Renaissance de Berkane défieront les Kenyans de Gormaya et puis les Égyptiens du Zamalek accueilleront les Marocains d'Agadir. À noter que la rencontre entre Al Hilal Omdurman et l'Étoile du Sahel a été reportée. On en parlera donc dans Mondial Sport demain.
Eh ben, on vous retrouvera, Cédric, demain dans Mondial Sport pour en parler.
Avec plaisir.
Un menu très complet. Je vous souhaite une bonne soirée. On va continuer de parler de football africain avec cette compétition qui démarre deux semaines avant la CAN, le 7 juin prochain. Je veux parler de la 8e édition de la Coupe du Monde féminine de football. L'Afrique y sera représentée par le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Ce sera la 8e participation des Super Falcons, la 2e des Lions Indomptables et une première pour les Banyana Banyana en France, comme pour les Bafana Bafana, les garçons. Donc c'était en 1998, des Sud-Africaines qui ont franchi un cap en atteignant la finale de la CAN 2018 face aux Nigérianes il y a quelques mois. Noé Ochebodin est allé à la rencontre des Jaunes et Vertes dans le cadre de leur préparation à Durban.
Fini les entraînements en catimini, les Banyana Banyana sont maintenant suivis par un fan club à travers tout le pays. L'année 2018 et leur finale perdue contre le Nigeria sont synonymes de sortie de l'anonymat pour les joueuses de Désirée Ellis.
Nous n'avons pas gagné la CAN, nous étions seulement finalistes, mais quand nous sommes revenus à l'aéroport de Johannesburg, l'accueil était extraordinaire. Ça vous montre l'importance de ce que nous avons fait et je ne suis pas sûre que tout le monde réalisait à ce moment-là.
Dans les rues de Durban, beaucoup s'amusent à dire que les Banyana Banyana ont remplacé les Bafana Bafana dans le cœur des supporters. Linda Motlalo, 20 ans, est buteuse à Durban dimanche dernier et le visage de cette nouvelle génération.
Nous avons beaucoup de soutien maintenant. Les supporters nous reconnaissent car on les a rendus fiers. Que ce soit le staff ou les joueuses, on a montré que nous formions une équipe unie et qu'on concrétisait les attentes. Donc leur soutien représente beaucoup pour nous.
La vraie concrétisation qui vient récompenser leurs efforts, c'est la création de la première ligue professionnelle féminine de football en Afrique du Sud. Ce sera à partir du mois d'août. Une ligue que la capitaine Janine Van Wyk va rejoindre, elle qui s'était exilée aux États-Unis jusque-là.
Ce ne sont encore que de petits progrès. On ne peut pas la comparer aux championnats américains ou français ou encore à la Ligue des Champions. La ligue a besoin de se développer encore. Et peut-être dans les 5 ou 10 prochaines années, on peut espérer rivaliser. Et c'est ce pourquoi on se bat ici.
Car plusieurs Banyana Banyana qui s'envoleront pour la France en juin ne sont encore que des semi-pros.
Par rapport aux championnats étrangers, c'est différent en Afrique du Sud. Ici, tu ne t'entraînes pas quotidiennement. Il y a beaucoup de joueuses qui jonglent entre un emploi et le football. Tu ne t'entraînes que deux fois par semaine et tu joues le week-end.
Selon la sélectionneuse Désirée Ellis, c'est aussi là l'un des objectifs de ces joueuses à la Coupe du Monde.
Peu de nos joueuses jouent à l'étranger, mais il y a une opportunité pour les autres de profiter des bonnes performances de l'équipe, pour signer un contrat, pas seulement pour changer leur vie, mais aussi la vie de leur famille.
En juin, les Banyana feront figure d'outsiders dans leur groupe en présence de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Chine. Pas de pression pour Linda Motlalo.
On est dans un groupe difficile, même si toutes les équipes se trouvent dans des groupes compliqués. On va juste aller à la Coupe du Monde pour laisser notre marque là-bas.
L'objectif ne se situe pas seulement en 2019 pour la nation arc-en-ciel, qui s'est portée candidate à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2023, qui serait la première sur le continent africain. Noé Ochebodin, Durban, RFI.
Et Noé Ochebodin qui revenait sur cette sélection d'Afrique du Sud qui va jouer donc la Coupe du Monde féminine en France l'été prochain. Premier match donc face à l'Espagne le 8 juin. Et la veille, il y aura la France en match d'ouverture face à la Corée du Sud. Parmi ces Françaises, de nombreuses Lyonnaises, quelques Parisiennes également en France. Justement, ce soir, c'était un peu la finale avant l'heure du championnat de France féminin entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Les deux club était à égalité de points avant le match. Ce n'est plus le cas. Les Lyonnaises ont fait exploser les Parisiennes ce soir 5-0 grâce à Egerberg, Le Sommer, Renard, Marossan et Van de Senden. À deux journées de la fin du championnat, l'OL au féminin a battu la seule équipe qui pouvait encore l'empêcher de décrocher son 13e titre de champion de France consécutif. Côté garçon, ce titre sera peut-être enfin officiel pour le Paris Saint-Germain demain soir. Les Parisiens n'ont besoin que d'un nul chez leur dauphin lillois pour l'obtenir. Un match sur lequel nous reviendrons dans Mondial Sport ce dimanche. Aujourd'hui, Marseille a battu Nîmes 2-1, ce qui permet à l'OM de revenir dans la course pour la Ligue des Champions à 5 points d'un Lyon mal en point et dont le coach Bruno Genesio a annoncé aujourd'hui qu'il ne serait plus l'entraîneur du club l'an prochain.
Mondial Sport sur RFI.
En cyclisme, la 117e édition de Paris-Roubaix s'élance demain de Compiègne. 257 km, dont 55 km de pavés, sont au menu de la Reine des Classiques, dont le tenant du titre est le Slovaque Peter Sagan. Sagan de nouveau au départ cette année, tout comme Greg Van Avermaet, Zdeněk Stybar ou encore John Degenkolb. Jusque-là, c'est du classique, hein. Mais cette année, l'Enfer du Nord va aussi ouvrir ses portes pour une première historique à un coureur rwandais. Si vous écoutez RFI, vous commencez à le connaître, c'est Joseph Areruya, meilleur cycliste africain 2018, vainqueur de la Tropicale à Missabongo et de son tour national. Le jeune cycliste de l'équipe française Delco s'apprête à disputer la plus prestigieuse course de sa carrière. Thomas de Saint-Léger a tenté de le suivre à l'entraînement.
Au moins, Joseph Areruya est prévenu. Ce bruit demain va l'accompagner une bonne partie de la journée. Ce bruit, c'est Paris-Roubaix. C'est un vélo qui vibre, un boyau qui se tord entre les pavés disjoints. C'est le chaos et pourtant c'est une légende. Un Graal, destin inespéré pour un gamin de Rwamagana, petite bourgade de l'Est du Rwanda. À 23 ans, Areruya va entrer dans l'histoire. Premier coureur de son pays, premier noir africain aussi, à disputer la reine des classiques. Mais le discret vainqueur de la Tropicale 2018 n'est pas du genre ambassadeur.
For everyone, I think in the world, they want...
Tout le monde rêve de disputer cette course, mais je ne me considère pas comme une exception. Il y a d'autres coureurs très forts en Afrique. Certains pourraient être à ma place. Pour moi, je dirais que c'est une chance.
Une chance aussi pour son équipe Delco Marseille-Provence, forcément un peu plus sollicitée que d'habitude. Mais la présence de Joseph Areruya n'est pas seulement symbolique. À l'entraînement, les coureurs de la formation française enchaînent les secteurs pavés et leur espoir rwandais n'est pas le moins à l'aise. Loin de là, son coéquipier, Jérémy Levaux.
Il m'a plutôt impressionné quand même. Il paraissait vraiment à l'aise sur les pavés. Vous voyez qu'il était content d'être ici, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il m'a un peu surpris sur les pavés, parce qu'on a quand même roulé assez fort à quelques endroits. Donc il était plutôt bien. Ouais.
Il est bien, mais pas au point non plus de décrocher le paradis après l'Enfer du Nord. Areruya ne rêve pas de victoire, simplement de terminer la course, si possible en l'ayant animé.
Si je me sens bien, j'aimerais bien prendre l'échappée pour représenter mon équipe, mon pays et l'Afrique.
Rendez-vous à Roubaix.
À Roubaix, s'il y arrive, Joseph Areruya recevra peut-être les félicitations du directeur de l'épreuve, directeur également du Tour de France, Christian Prudhomme, ravi lui aussi par la sélection du Rwandais.
Il y a un Tour du Rwanda qui chaque année est source d'enthousiasme, de ferveur populaire exceptionnelle, avec des champions qui sont des héros, des stars. L'un de ceux-là, ancien vainqueur de son tour national, sera donc au départ du Paris-Roubaix. Je ne peux que m'en satisfaire. Vous savez, souvent on me dit qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ce sera demain pour vous, Paris-Roubaix dans 20 ans ou Tour de France dans 30 ans. Je dis la même chose mais avec des coureurs qui viennent du monde entier et notamment d'Afrique noire.
Et en attendant un roi pour la reine des classiques, l'Afrique noire s'est déjà trouvé un pionnier. Loué soit Areruya, Thomas de Saint-Léger, Roubaix, RFI.
Thomas de Saint-Léger qu'on retrouvera également dans Mondial Sport demain à l'issue de Paris-Roubaix. Je vous propose maintenant de refaire le parcours d'une combattante, celui de Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe à Rio au sein d'une équipe de France qui a ramené 6 médailles des JO 2016 après avoir été déjà championne du monde en 2008. Désormais très impliquée dans les institutions sportives, elle s'est d'abord servie de ses points pour faire avancer la cause des femmes sur les rings. Elle vient de publier son autobiographie « Mes combats de femmes » paru en France aux éditions Robert Laffont. Le parcours d'une enfant élevée au sein d'une fratrie de 6 dans la banlieue nord de Paris où la vie n'était pas toujours rose. Sarah Ouramoun qui évoque également sa maman arrivée en France depuis l'Algérie en 1978, une mère et ses valeurs qui ont porté la future boxeuse tout au long de sa vie. Elle l'a confié à Christophe Diremzian.
Clairement, je crois que ce qu'elle a pu vivre et surtout ce qu'elle nous a appris, les valeurs dans lesquelles elle nous a baigné étant enfant m'ont aidé, je crois, à faire des choix dans la vie et je crois que quand j'ai découvert la boxe, je me suis pas posé la question de savoir si j'avais le droit de le faire parce que j'étais une fille. Je me suis juste posé la question de si j'avais le droit de le faire parce que j'aimais ça. Mais c'est parce qu'on a été élevés vraiment garçons et filles de la même manière. On faisait tous le même sport. Mon grand frère est passé aussi par la danse classique. Enfin voilà, on a fait de la natation, du rock'n'roll acrobatique. Qu'on soit fille, garçon, enfin il y avait pas de différence. Et ça m'a aidé à avancer sereinement.
Vous n'avez pas commencé par la boxe, vous avez commencé par le taekwondo, mais vous êtes venu assez rapidement à la boxe. Vous aviez 14 ans, vous avez poussé la porte d'une salle à Aubervilliers où rien n'était fait pour vous. Comment vous avez été accueillie là-bas?
J'ai été très bien accueillie. C'est Saïd Benajem qui gérait cette salle. Il a été lui boxeur olympique. Il a fait les Jeux de Barcelone en équipe de France. et puis après il est passé professionnel. Il m'a tout de suite accepté dans cette salle en me disant que la boxe c'était le noble art, que c'était une affaire de stratégie, de mental, de gestion d'émotions. En même temps, lui, il proposait déjà de la boxe à l'école, aux classes de CM2, donc il était déjà confronté à des petites filles qui boxaient, donc il avait cette ouverture d'esprit. Et quand je lui ai dit que je cherchais à faire un sport de combat et qu'il m'a parlé de la boxe anglaise, pour moi c'était hors de question parce que je comprenais pas qu'on puisse donner des coups de poing dans la tête de quelqu'un. Et il a su me vendre cette discipline avec brio, vraiment en m'expliquant que c'était l'escrime des poings, le noble art. Et je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de cette discipline quand je l'ai découverte, parce que c'était un sport complet. Il y avait ce côté très ludique sur le ring où on apprenait à mettre en place des stratégies, à se placer d'une certaine manière pour faire réagir l'autre. Et c'est vraiment ce côté-là un peu mental, stratégique qui m'a attirée. Et puis j'ai eu l'impression d'apprendre à mieux me connaître, à commencer à maîtriser mon corps, mes émotions, et c'est ce qui m'a plu.
Première licence en 1999, à l'époque où les femmes sont enfin autorisées à combattre. Championnat du monde en 2001, mais à l'époque, malgré tout, c'est quand même très très difficile d'évoluer dans les compétitions pour une femme.
C'est difficile et surtout on n'était pas prise au sérieux. C'est-à-dire qu'on avait une première équipe de France qui s'est créée tout de suite, hein, en 99. En face de nous, on avait des équipes en Suède, au Canada, en Hongrie, qui étaient un peu plus expérimentées parce qu'elles avaient eu l'autorisation de boxer quelques années avant nous. Et donc, quand on arrivait sur la scène internationale, on était vraiment une équipe facile à battre. On parlait de nous en disant qu'on était le tour gratuit. Donc, quand il y avait les tirages au sort et que une boxeuse étrangère tombait contre une Française, pour elle, c'était presque un combat de repos. Parce que nous, on n'avait pas d'entraîneur attitré. On découvrait notre entraîneur à l'aéroport. Donc, c'était assez compliqué quand on était en plein combat de se retourner, de voir un visage pas familier. Et puis voilà, même les discours étaient pas cohérents parce qu'ils connaissaient pas nos forces et nos faiblesses. C'était difficile de mettre en place une stratégie commune. Et puis, on n'avait pas de kiné, pas de médecin. On avait le minimum d'équipement pour pouvoir juste s'entraîner et boxer. Ouais, ça a été compliqué. En fait, on a commencé à s'intéresser à nous après cette période quand on a su que les femmes boxeuses allaient enfin intégrer le programme olympique. Avant ça, on nous répétait souvent « Vous n'êtes pas olympique, on ne peut rien faire pour vous ».
Le fait que la boxe soit devenue olympique a effectivement contribué à faire en sorte que la boxe féminine aussi change d'image, mais malgré vos succès, vos médailles olympiques, il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment pour les jeunes filles, les jeunes boxeuses qui ont envie de se mettre à ce sport.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors ça a évolué hein, depuis les Jeux de Rio, parce que les médailles de la Team Solide ont permis de donner envie à plein de jeunes de faire de la boxe. Seulement aujourd'hui, on est vraiment sur de la boxe loisir, où là, ça marche bien. Il y a plein de salles qui ouvrent et qui proposent une pratique plutôt ludique. Par contre, passer le cap de la compétition, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, c'est un sport dur. Mais si en plus, on n'est pas soutenu, on n'a pas envie ou on est happé par d'autres activités. Donc, on a un gros vivier en boxe loisir, mais qui est pas du tout exploité. En tout cas, il n'y a pas assez peut-être de détection pour pouvoir avoir des compétiteurs sur les prochaines Olympiades, là pour Tokyo ou même pour Paris 2024. Je trouve en tout cas que le travail n'est pas fait.
Sarah Ouramoun avec Christophe Diremzian. Elle est également vice-présidente du comité olympique et sportif français et un membre actif de Paris 2024. Son livre, Un mécombat de femmes, est paru aux éditions Robert Laffont. Je vous parlais tout à l'heure du Paris Saint-Germain qui pourrait décrocher enfin son titre de champion de France demain à Lille. La Juventus Turin, elle a échoué aujourd'hui. Elle devra attendre encore un peu pour décrocher son 8e titre consécutif de championne d'Italie. La Juve n'avait besoin que d'un point, elle aussi, mais elle a perdu sur le terrain de l'Aspal, 2-1. De nombreux titulaires, il est vrai, étaient au repos, à commencer par Cristiano Ronaldo avant le quart de finale retour de Ligue des Champions que les Turinois vont jouer face à l'Ajax Amsterdam mardi. En Espagne également, Lionel Messi a été aménagé avant le quart contre Manchester United et le FC Barcelone s'est contenté d'un 0-0 à Huesca. Du coup, l'Atlético s'est rapproché à 9 longueurs après sa victoire 2-0 face au Celta Vigo avec un but et une passe décisive d'Antoine Griezmann qui en a profité pour sucer son pouce devant les caméras pour fêter la naissance d'Amaro, son deuxième enfant en début de semaine. Bah, on le félicite, la maman Amaro également. Et puis bah, moi, je félicite également Valentin Vanner et Laurent Philippot qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Mondial Sport, c'est terminé, mais vous savez, ça recommence demain.